Bonsoir mes frères et sœurs, c'est vrai quel bonheur, quelle grâce d'être dans la maison de Dieu, d'ouvrir le Saint-Livre dans les 1 Corinthiens au chapitre 6 et voir tous ces conseils infinis pour savoir comment rendre le meilleur témoignage. C'est important pour vous de rendre un bon témoignage? Oui? Est-ce que c'est important? Eh oui! Un chrétien, c'est un souci, c'est un fardeau. Il veut être un bon témoin. Il ne veut pas être pentecôtiste ou baptiste. Il veut être vraiment un chrétien qui rend un bon témoignage. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1er. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge? Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères? Mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les infidèles? C'est déjà certes un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne pas vous laisser plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Amen. Pour ce soir, on verra ça. Ça suffira, on ne verra pas le chapitre en entier. Alors, comme je l'ai déjà dit dans l'exhortation qui a précédé, quand vous prenez ce chapitre, alors je me permets quand même de redire certaines choses. Par exemple, vous voyez au chapitre 1er, au verset 7, on voit que c'est une église qui a été bénie par le Saint-Esprit. Quand il est dit au verset 7 du chapitre 1er, le témoignage a été établi parmi vous, il ne vous manque aucun don. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Alors, on peut se demander, mais comment c'est possible de voir dans une église où ils avaient tant reçu, comment ils ont fait pour redevenir charnels? On l'a vu dans le chapitre précédent, si vous étiez là mardi dernier, comment ils ont laissé le péché dans l'église et comment les responsables ont été indifférents à l'égard du péché. Alors, quand vous regardez cette épître, il faut comparer. Il ne faut pas que nous comparions à quelqu'un, mais il faut comparer les choses afin que nous puissions dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, voyez mes frères et sœurs, s'il y a une chose qui est certaine et qu'il faut bien comprendre, dès le départ de notre vie spirituelle, c'est que ce n'est pas parce que Dieu nous accorderait maintes et maintes dons que nous avons forcément un bon comportement. Et ce n'est pas parce que nous avons reçu un don que nous sommes supérieurs à quelqu'un. D'ailleurs, ça a été indiqué d'une manière extraordinaire dans le Sermon sur la montagne, texte que j'utilise souvent, parce que c'est d'une sévérité pas possible dans l'évangile de Matthieu. Vous connaissez ce texte? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, ce frère, il prophétise, il doit être spirituel. Alors, est-ce que quelqu'un, parce qu'il prophétise, est plus spirituel que celui qui ne prophétise pas? Alors, ben non. Un don, c'est un don. Matthieu chapitre 7, c'est pas parce que quelqu'un a un talent qu'il est plus spirituel que celui qui n'en a pas reçu. Par contre, celui qui ne le fait pas valoir, là, par contre, c'est autre chose. Matthieu chapitre 7, c'est le fameux sermon, c'est certainement le meilleur sermon qui ait jamais été fait sur la terre. Parce que c'est Jésus qui l'a fait, premièrement. Et parce que chaque verset pourrait faire un livre de 15 cm d'épaisseur. Et je le pense. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Oui, en plus, ils appellent Seigneur. Ça veut tout dire. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et Jésus leur dit pas, non, c'est pas vrai. C'était la vérité. Alors je leur dirai ouvertement. Ça va se passer d'une manière très claire. Ça sera dit ouvertement. Devant Dieu, il n'y aura pas de faux semblants. Ça sera d'une clarté totale. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est terrible. Mais c'est ce que l'épître aux Corinthiens nous enseigne. C'est que même si on a reçu tous les dons, puisqu'il est écrit, il ne vous manque aucun don, on peut être charnel, on peut redevenir charnel et on peut ne pas avoir un bon comportement. Alors prions pour que chacun exerce les dons. Je l'ai souvent dit, je pense que dans l'église, beaucoup de frères et de sœurs n'exercent pas les dons. Certes, un frère peut être appelé au ministère, il va pas rentrer. Un autre devrait exercer les dons spirituels, il ne le fait pas. Un autre devrait user de charité chrétienne, etc., etc. Il ne le fait pas, ça c'est pas bien. Mais ce n'est pas parce qu'on exerce un don que l'on obéit à Dieu, je l'ai déjà dit. C'est pas parce que je prêche la parole que je suis spirituel. Je peux prêcher par professionnalisme et ne pas forcément obéir à Dieu. Et il n'y a que Dieu qui regarde les cœurs. Ce soir, Dieu regarde à votre cœur. En tous les cas, il faut faire la différence entre le fruit et le don. D'ailleurs, vous êtes toujours dans Matthieu ? Ou vous êtes déjà parti ? Moi, je suis parti. Dans Matthieu 7, juste avant, c'est bien. Mais je ne sais pas comment vous lisez, vous, la Bible, mais ça vaut la peine de méditer. Dans ce fameux chapitre, justement, juste avant, Jésus parle des fruits. Matthieu, alors, je ne sais pas si on va tout lire, Matthieu 7, versets 15 à 20. Il est dit, mais regardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors, c'est sûr qu'il faut avoir un certain discernement, parce qu'il y a des gens qui sont forts pour se déguiser. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, à quoi reconnaît-on un chrétien digne de ce nom? Aux fruits. Par les paroles, par le comportement, on reconnaît. Il y a des gens, oui, mais c'est plus fort que moi. Ah oui, c'est plus fort que moi d'être vulgaire. C'est plus fort que moi d'être grossier, c'est plus fort que moi de manquer de respect, c'est plus fort que moi d'être méchant, de ne pas pardonner. Oui, mais c'est ma personnalité. Non, c'est ta désobéissance. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alors, que faisaient les Corinthiens quand ils avaient des litiges? Est-ce que ça peut arriver au fait d'avoir un litige entre un frère et une sœur, entre deux frères? Est-ce que ça peut arriver un problème? Oui, ça peut arriver. Mais on va voir que ça devrait être simple. Et quand les Corinthiens, pourtant je le répète, qui étaient convertis et qui avaient reçu tous les dons, quand ils avaient un problème entre frères et sœurs, ou entre frères, eh bien ils apportaient ces fameux litiges devant les tribunaux païens. Et c'est pour ça que Paul leur écrit. Il laissait les inconvertis juger leurs disputes. Parce qu'il y avait des disputes et des litiges. Et qu'est-ce que Dieu dit dans ces quelques versets? Même si c'est très court, il y a quand même des choses à dire. Qu'est-ce que Dieu dit? Parce que c'est ça qu'on veut, que Dieu nous parle, non? Ça veut dire quoi, chanter, chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice? Ben c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire lorsque j'ai un différend avec un frère, ce qui peut bien sûr arriver? Ça devrait quand même être rare. Mais là, on voit que c'était beaucoup de frères qui faisaient ça dans l'église. Eh bien, Paul dit dans ce texte, enfin Dieu dit que les chrétiens devraient se juger entre eux. C'est les chrétiens qui devraient avoir de la maturité pour se régler les problèmes les uns des autres. En plus, Dieu, dans sa bonté, vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, quand un problème est réglé, on apprend quelque chose, une révélation. En plus, Paul leur dit, mais écoutez, vous vous disputez, déjà c'est pas bien, vous êtes charnel. Quand vous avez un problème, vous allez chercher des païens pour régler vos problèmes. Mais vous savez pas, au verset 2, mais vous savez pas que les saints jugeront le monde. On n'y pense pas à ça. Vous y pensez jamais à ça, non? Vous y pensez de temps en temps? Non, c'est bien, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Mais c'est écrit. Les chrétiens, je pense, qui auront été spirituels, auront la responsabilité de juger le monde. Alors c'est vaste, hein, mais laissez-moi vous dire que c'est quand même la preuve qu'un chrétien peut grandir en maturité. Mais il leur dit exprès pour leur faire comprendre. Mais est-ce que vous vous rendez compte? La maturité qui devrait être la vôtre, vous ne l'avez pas. Et vous êtes en train de chercher des païens. Quel témoignage! Mais quel rendez-vous le témoignage que c'est? Le verset 2, quand même, Regardez, le mieux c'est de lire en boucle, excusez-moi, mais pour bien comprendre les textes. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et à la fin, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ça veut dire qu'ils avaient pris cette habitude, dès qu'ils avaient un problème, ils n'étaient pas capables d'évaluer une situation, quand même. Et ça c'est charnel, ça c'est vraiment charnel. Quand on demande aux païens de s'occuper des problèmes de l'Église. Mais c'est pas fini. Il dit non seulement vous jugerez le monde, mais vous avez lu avec moi le verset 3. Ça vous fait pas drôle de dire ça? En plus, non mais, Paul est rempli de Dieu. Il veut qu'on comprenne les choses. Il dit mais attendez, vous allez juger le monde. Et en plus, les saints jugeront les anges. Non mais, vous le croyez ça? Vous étiez fatigué, Paul. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que c'est vrai? Quels anges on va juger? Et voilà, les déchus, bien sûr, pas les anges qui obéissent. Alors, ça vous prouve, pour juger, il faut être au courant de tout. Vous êtes d'accord? Pour exercer un jugement équitable, parfait, saint, divin, il faut qu'on soit au courant de tout. Donc ça veut dire que les chrétiens, je ne sais pas comment ça marchera exactement, mais en tous les cas, les chrétiens qui seront jugés dignes, puisque cette expression revient, de juger, seront au courant de tout ce qui s'est passé par rapport à ces anges qui sont aujourd'hui des démons. Donc c'est bien la preuve, comme dit l'apôtre Jean, que nous connaîtrons comme nous avons été connus, que nous serons semblables à Jésus, ça nous dépasse ça. On sera semblables à Jésus. Est-ce que vous savez que ce que Jésus sait? Ça nous dépasse ça. Mais il est en train de leur dire, mais réfléchissez. Réfléchissez la maturité qui devrait être la nôtre en avançant dans les choses spirituelles. Et vous, quand vous avez un petit différent, vous allez chercher un païen pour régler le problème. Quelle honte! Il le dit, je le dis à votre honte. Et il y a des choses, franchement, mes frères et sœurs, dont on devrait avoir honte quand on a un comportement charnel. Le problème, c'est que souvent même les gens charnels ne se rendent même plus compte à quel point ils sont si loin de Dieu. Oui, nous jugerons les anges. Alors tout ça, c'est impressionnant tout ça. Quand on réfléchit à tout ce que ça représente, combien d'anges il y a? Est-ce que quelqu'un sait combien d'anges il y a? Combien il y en a d'anges? Est-ce qu'il y a un nombre dans la Bible? Dieu, je ne sais pas. Et moi, je pense qu'il y en a des millions, des centaines de millions, je ne sais pas. Vous croyez qu'il doit y en avoir beaucoup? Moi, je pense qu'il doit y en avoir. Ça doit être un truc de fou. Ça doit être extraordinaire. En plus, la Bible dit qu'on a des anges. C'est écrit ou non? Donc, il est fort probable que chaque personne ait un ange. Oui ou non? Est-ce que c'est écrit que les anges nous protègent? Ben oui. Vous voyez, c'est des sujets, mais c'est écrit dans un contexte de comportement charnel pour nous montrer qu'on devrait quand même, continuellement penser à élever le niveau spirituel dans l'Église. C'est quoi une Église? C'est une Église qui grandit en nombre, bien sûr, mais une Église, c'est une Église qui mûrit au niveau spirituel. Est-ce que le niveau spirituel augmente dans l'Église? Voilà, ça c'est une question qu'on peut poser en pastoral. Est-ce que le niveau spirituel s'élève? Ou est-ce que le niveau spirituel diminue? Eh bien, en regardant comment on règle les problèmes, eh bien, on s'en rend compte. Oui, les chrétiens doivent mûrir. Les chrétiens, ils doivent mûrir et ils doivent, dès qu'il y a un problème, ils doivent le régler d'une manière intelligente. Dans Acte 6, il y avait un problème. Ils ont commencé à se disputer, les Hébreux avec les Juifs. Il y avait le réveil, c'est pas possible. Il y a le réveil et ça commence à se quereller, à murmurer. Est-ce que ça peut arriver, ça? Vous connaissez Acte 6? C'est un des textes les plus connus du Nouveau Testament. Acte 6, verset 1er. En ce temps-là, en plein réveil, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, dont les Hébreux, murmurèrent contre les Hébreux, donc les Grecs murmurèrent contre les Juifs. Pourquoi? Parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il y avait une négligence. Est-ce que ça peut arriver, même si on est en plein réveil, quand il y a des besoins qui augmentent, ça peut arriver qu'on soit dépassé par des besoins? Bien sûr, ça peut arriver. Ne soyons pas hypocrites. Les problèmes, il peut y en avoir. Il y en a un, mais regardez ce qui se passe. Plutôt que ça crée des disputes et on va chercher un juge, etc. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Ils dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Alors le mot table, c'est un mot grec qui signifie trapézoï. En vérité, c'est la banque. C'était un problème de trésorerie. Ce n'était pas servir un sandwich et la soupe sur les tables. Les 12 convoquèrent la multitude. Alors, verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et ils prirent, vous avez vu, cette proposition plut à toute l'assemblée, et ils élurent Étienne, homme plein de foi, d'Esprit Saint, Procor, Nicanor. Si vous regardez la signification des prénoms, il y a des Juifs et il y a des Grecs. Vous voyez cette intelligence, ils ont pris des deux nationalités. Voilà, ils étaient pleins de foi et d'Esprit Saint. Mes frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte, pour servir des sandwichs et pour servir la trésorerie, il a fallu des hommes remplis du Saint-Esprit. Alors je ne vous dis pas, pour prêcher la parole de Dieu. Voilà comment ça devrait se passer. Il y a un problème, c'est normal, aujourd'hui on dirait il y a de la discrimination raciale. Ça peut arriver, il y a des trucs qui peuvent se passer. Mais vous avez vu, ils sont intelligents, ils vont prendre des frères, des Grecs, des Juifs. Et le problème, il est réglé. Parce que dans l'Église, il y avait des gens qui étaient remplis du Saint-Esprit. Et voyez, quand on compare tous les problèmes qu'il y a, bon, peut-être que vous n'avez pas le réflexe de le faire. Moi, j'ai pris le réflexe. Mais quand vous regardez comment les problèmes ont été réglés, chaque fois qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, les problèmes se réglaient. Donc, la solution, c'est de mûrir et de dire, Seigneur, il faut que je sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce que c'est important pour vous? Même si je ne fais que la trésorerie dans l'Église, quoique la trésorerie, c'est quand même une sérieuse responsabilité. Mais quoi que vous fassiez, Seigneur, je veux être rempli d'Esprit Saint. Et si on me choisit, ils ont choisi. C'est important. Moi, plusieurs fois, je dis ça, je ne sais pas si c'est bien à propos. Combien de gens m'ont dit, Monsieur Gau, faites-moi rentrer dans le ministère, je veux rentrer. Mais j'ai dit, mais il faut que l'Église reconnaisse votre ministère. Embauchez-moi, monsieur Gou, embauchez-moi dans l'église. Je veux être pasteur, mais on ne vous a jamais entendu prier. Vous êtes là, personne ne vous connaît. C'est l'assemblée qui, je crois, moi. Est-ce que vous croyez à l'importance de l'église? Et c'est pour vous dire que beaucoup de problèmes existent parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, il y a toujours, par la grâce de Dieu, une solution. Donc, Dieu permet que ce chapitre soit dans la Bible pour nous montrer que ces gens qui avaient tout reçu, ils redevenaient charnels. Tiens donc, c'est une question qu'il faut que je me pose. Est-ce que je deviens spirituel ou est-ce que je redeviens charnel? Eh oui, c'est une question. C'est le but. En tous les cas, il laissait les inconvertis régler leurs disputes. C'est quand même dommage, franchement, d'en arriver là. Donc, les saints jugeront le monde. Le verset 2, on l'a lu. Les gens, nous, on jugera les anges. C'est quand même quelque chose de... Je ne sais pas. Moi, je languis ces moments. Vous ne languissez pas ce moment? Est-ce que comment on sera habillé, comment ça se passera? Enfin, moi je me fais des petits films. Enfin, bon. En tous les cas, une chose est sûre, quand Dieu dit à l'Église, je le dis à votre honte, il n'y a pas un homme capable, il n'y a pas, comment il dit exactement, verset 5, il n'y a pas un homme, un seul homme, sage, qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, je ne comprends pas tout non plus, ne croyez pas que je suis la science infuse, mais quand même, alors, mais aujourd'hui au fait, tiens donc, parce qu'on est quand même en 2015, aujourd'hui, est-ce que les chrétiens acceptent les paroles de Paul? Parce que c'est bien joli d'examiner le texte, mais la question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui dans l'Église, est-ce que les chrétiens acceptent ces paroles-là? Est-ce que vous acceptez que dans l'Église, s'il y a un problème, il soit réglé par des gens spirituels? Ou est-ce que vous dites, comme on l'entend de plus en plus, mais est-ce que les chrétiens sont capables de connaître toutes les lois? Les gens du monde qui sont spécialisés, ils sont plus à même de régler les problèmes, même dans l'Église, ils sont qualifiés, ils ont des connaissances. Non, c'est pas aux chrétiens, les chrétiens n'y entendent rien, c'est aux païens. C'est ça qu'on entend. Et je peux vous dire qu'en ce moment, les quelques églises que je connais qui ont un procès, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de paix dans l'église. Je ne sais pas si vous pensez que le Saint-Esprit doit bénir ces églises quand on en arrive à dire non, de toute façon dans les églises, les chrétiens ne sont pas capables, donc il faut des hommes de loi, eux ils sont qualifiés. C'est comme ça que ça marche. Je vous le résume, il y a des églises dans le mouvement, dans le nôtre, j'en ai honte bien sûr, qui sont en procès. Et que, laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça que Dieu va bénir l'Église. Bien sûr qu'on ne connaît pas toutes les lois, bien sûr qu'on n'est pas qualifié pour tout, etc. Mais quand même, on peut s'autoriser à voir comment le monde juge et comment nous, l'Église, nous devrions juger les situations. Quand le monde juge, est-ce qu'il juge comme l'Église? Non. Quand le monde juge, lui, il juge, il faut des faits. Il faut des faits. Il faut des preuves. Vous comprenez? Attendez, j'ai mal dit le truc. Mais il faut que les choses soient réelles. Dans le monde, on ne juge pas. Dans l'Église, on ne juge pas de la même manière. Est-ce que dans le monde, est-ce qu'on va juger un homme parce qu'il a convoité la femme de son prochain? Ça les ferait rire. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va les faire rire. Est-ce que dans le monde, on va juger un homme qui a de la haine pour son prochain? Ben non, il s'en fiche pas mal. Et je pourrais vous donner des exemples en pagaille. Le monde, ça les ferait rire, nos sujets. Moi, dernièrement, on a dû régler un problème. Et il y a même un pasteur qui m'a dit, mais monsieur Go, le problème que vous évoquez, pour nous, c'est une broutille. Tellement on a des problèmes dans l'Église. Mais moi, je suis quand même sensible, même aux petits problèmes. Alors ce matin, je me suis dit, tiens, tu vas regarder sur le divorce. Parce que quand j'ai parlé sur la face, je me suis dit, tiens, comment le monde juge, comment l'Église doit juger. Le divorce. Je vous encourage à le faire. Puisqu'en plus, avec Internet, maintenant, vous pouvez avoir toutes les lois de suite. Vous tapez les lois sur le divorce et vous regardez comment ça a évolué en France depuis la Révolution. Ça fait peur, vraiment. Comment l'homme a vraiment descendu. À partir de 75, avant 75, le divorce était une faute pénale. Pénale. Pénale, ça veut dire qu'il va y avoir une peine. Aujourd'hui, c'est juste une faute civile. Tout ça, vous pouvez le lire sur Internet. Loi sur le mariage. Quelque chose de pénal, c'est qu'il va y avoir une peine. Par exemple, avant 75, la femme se rendait coupable du crime d'adultère. Donc, quand il y avait adultère, elle était punie d'une peine d'emprisonnement, attendez, pour l'adultère, de 3 mois à 2 ans, avant 75. Le mari, lui, pour la même faute, la peine, c'était de 360 à 7200 francs. Et comme lui bossait, il ne pouvait pas aller en prison. Si l'adultère était commis dans le domicile conjugal. Là, lisez, vous allez voir, ça fait pitié. En 1993, puis en 2004, on a encore changé les lois. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le concubinage accepté, le pax, vous savez qui a été accepté. Mais lisez, ça vaut la peine de voir comment le monde ne fait que changer les lois. Ça a de la démagogie pour s'adapter aux gens. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est politique. Alors, bon, pourquoi je vous dis ça? Vous pouvez me dire, mais à quoi ça sert? Écoutez bien, si je vous dis ça, alors j'avais que l'embarras du choix d'écrire tout ce qui est... Comment les lois ont changé en France? N'oubliez pas qu'en 81, il y avait encore la peine de mort. On décapitait les gens en France aussi. Vous savez, il y aurait beaucoup de choses à dire et à expliquer. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les chrétiens. Les chrétiens aujourd'hui, comment ils veulent être jugés lorsqu'ils commettent une faute? Sur des bases du monde ou sur les bases de la parole de Dieu? Et si tant de chrétiens ne veulent pas être jugés par l'Église, c'est parce qu'ils savent très bien que le monde les jugera moins sévèrement. Vous comprenez ce que je veux dire? Les normes bibliques, elles sont profondes quand même. L'adultère, pour commettre l'adultère dans le monde, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que c'est quoi l'adultère dans le monde? C'est coucher avec une autre femme, d'accord? Mais dans l'Église, c'est quoi l'adultère? Comment? C'est convoiter. Alors c'est quand même important, mais Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle. Alors j'ai déjà prêché là-dessus la différence entre la tentation et la convoitise. La convoitise, c'est dans Matthieu 5. Ça. On peut le regarder quand même. Vous savez, c'est important. Mais mes frères et sœurs, si nous sommes spirituels, nous voudrons être jugés par la parole. C'est important pour vous ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh mais de toute façon, la loi l'interdit pas. Mais la loi l'interdit pas le Pax. La loi, maintenant, elle autorise le mariage homosexuel. Oui ou non? Donc, c'est légal. L'avortement, est-ce que c'est légal en France? Est-ce que c'est légal? Eh oui, vous pouvez tuer votre enfant dans le sein, dans votre ventre, mes sœurs. Ça ne vous dira rien. Au contraire, même, vous aurez même des aides dans certains endroits. On vous donnera de l'argent pour que vous puissiez le faire. Mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est moral devant Dieu. C'est pour ça que ces chapitres, ils doivent nous amener à réfléchir et dire, mais moi, si je commets un problème, si je commets une erreur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander à ce que ce soit le monde qui me juge ou ce que je vais demander que ce soit les anciens de l'Église qui me jugent? Eh bien, si je suis spirituel, j'accepterai le jugement de l'Église. C'est ça, être spirituel. Et si on en restait là, croyez-moi, Dieu bénirait. Matthieu chapitre 5, regardez. Parce qu'il y a l'appréciation, il y a les lois du monde et il y a les lois du royaume de Dieu. Mais moi, je vous dis, Matthieu 5, 28, que quiconque regarde une femme pour la convoiter. Alors écoutez bien les frères, parce qu'il y a des frères qui se sont détruits l'esprit avec ce verset. Il n'est pas dit quiconque est tenté en regardant une femme. La tentation, ce n'est pas un péché. Est-ce que Jésus a été tenté? En quoi il a été tenté, Jésus? En toute chose, c'est écrit où? C'est bien, chapitre 4. Il a été tenté comme nous. La tentation, ce n'est pas un péché. La convoitise, c'est que je veux arriver à mes fins. Est-ce que vous comprenez? Donc, la femme, je la convoite, mais c'est-à-dire que dans ma tête, je veux arriver à mes fins. C'est ça, convoiter quelqu'un. C'est pour ça. Sinon, si chaque fois qu'on regarde une femme qui est jolie et qu'on a une mauvaise pensée, est-ce que ça peut arriver? Soyons honnêtes. Les hommes, soyez sérieux. Ou l'inverse. Mais soyons honnêtes, ne jouons pas les hypocrites. La tentation, on doit de suite le gérer. Pop, 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 pop. C'est fini. La convoitise, c'est vraiment un autre problème. Parce que la convoitise, lorsqu'elle est enfantée, elle produit la mort. La convoitise produit le péché, et le péché étant consommé, dit l'apôtre Jacques, produit la mort. Il y a tout un tas de verbes qui montrent qu'on part de la tentation, ça va jusqu'à la mort. Mais l'étape la plus grave, c'est la convoitise. Mais les normes bibliques, vous voyez, c'est sérieux. Alors on pourrait prendre, on n'a pas le temps de voir tout ça. Mais ça vaut la peine, quand vous lisez la Bible, de dire, mais tiens, le monde, lui, c'est pas parce que vous convoitez une femme, est-ce que le monde va vous mettre en prison parce que vous convoitez une femme? Il faut comprendre les choses. Pourquoi certains chrétiens réclament la justice du monde? Parce que ils sont charnels. Ils ont calculé. Dans l'Église, on se demande pourquoi il n'y a pas de réveil, pourquoi il n'y a pas cette approbation du Saint-Esprit. Mais quand je vois ce qui se passe dans les mouvements religieux, et ça me gêne d'en parler, mais ça existe. Ça existe aujourd'hui, dans notre mouvement. Et on devrait quand même prendre ces textes, en fait, je ne sais pas. Et dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne veulent pas être jugés sur des bases bibliques? Ben c'est parce qu'ils sont charnels. Un chrétien qui est charnel, il ne veut pas être jugé par l'Église. Un chrétien qui est spirituel, il accepte que les chrétiens l'aident dans ce jugement. Ouais, c'est comme ça. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire, il le déplore. Eh oui. En tous les cas, le jour du jugement, il va venir. Il vaut mieux prendre l'habitude de juger les choses avec le cœur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Selon le cœur, selon ce que Dieu le demande. Parce que c'est le meilleur moyen d'être prêt quand on va passer devant Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ça, j'ai pris l'habitude de régler les choses, non pas selon le critère du monde, mais selon le critère de la parole de Dieu. Ça fait que je suis en paix. Ouais. La solution, elle est où? Au verset 7. Regardez, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure, mais la solution, en vérité, elle est au verset 7. Mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Voilà. Voilà. Est-ce que c'est ça la spiritualité? Eh ben. Et les Corinthiens, ils avaient, mais on voit dans la façon de parler que c'est quelque chose de grave. Et Paul leur dit, mais il vaut mieux se faire dépouiller, il vaut mieux perdre. Il vaut mieux perdre, même si j'ai raison, il vaut mieux perdre, plutôt que d'aller au tribunal et d'embarquer son frère là-dedans, dans cette affaire. Mais je le répète, quel témoignage! Les chrétiens, ils doivent rendre le bien pour le mal. On a subi une injustice, et alors? Et alors? Vous ne croyez pas que Jésus il a subi quelque injustice? Quelques petites ou quelques grandes injustices? Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur? Alors, un chrétien charnel n'acceptera pas que l'Église le juge. Et on l'a vu souvent dans des situations, il y a des chrétiens qui n'acceptent pas qu'on puisse leur dire, ah mais moi, je vous dis ce que vous voulez, moi je sais ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait. Un chrétien, écoutez-moi, un chrétien, ou il est spirituel, ou il est charnel. S'il est spirituel, eh bien, il aime la loi du Seigneur. Vous aimez la loi du Seigneur? Si Dieu le dit, c'est sérieux. Bien sûr que convoiter une femme, c'est grave. Bien sûr, vous n'irez pas en prison, ne vous inquiétez pas parce que vous avez convoité une femme. Vous ne perdez pas votre travail, aujourd'hui, je ne sais pas, n'importe quel travail. Vous faites un travail, le patron apprend que vous vivez dans l'adultère. Est-ce que vous allez perdre votre travail? Bien, si vous bossez bien, vous ne perdez pas votre travail. Dans l'église, ça se passe, est-ce que le gars il perd le travail? Ben oui, et j'espère. Mais vous savez, moi j'ai entendu dernièrement des propos de très haut niveau, qu'il fallait pas se mêler. La maison, c'est la maison, l'église, c'est l'église. À l'église, il faut faire son travail, à la maison, ça ne regarde personne. Moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Je crois qu'un chrétien, il rend un témoignage, un bon témoignage, partout. Mais c'est rentré, ça, dans les mœurs. Ça s'appelle l'apostasie. Et le seul moyen de s'opposer à l'apostasie, eh bien, c'est de comprendre la justice divine. Et la justice divine, on le sait, ça consiste à pardonner. Alléluia. Un chrétien, il pardonne. Alléluia. C'est ça la justice divine. Et si les Corinthiens, quand il y a eu des différends, s'étaient demandé pardon, ça ne serait jamais arrivé. Et je le répète, ils avaient tout reçu. Paul leur dit même, vous avez même commencé à régner. Vous vous rendez compte? Comment ils avaient reçu? C'est très fort cette affaire. En tous les cas, une chose est sûre, il ne devrait pas y avoir de procès dans l'église. Bon, ici, il n'y en a jamais eu, je sais. Mais je veux dire que Dieu nous garde. De toute façon, si on est spirituel, Dieu nous gardera, c'est évident. Il n'y a pas de procès quand on vit dans le pardon. Il n'y a pas de procès quand nous nous aimons les uns les autres. C'est ça l'Église. Ce qui prouve, parce que c'est sous-entendu, mais ça je ne me trompe pas, ce qui prouve que malgré tout ce qu'ils avaient reçu, les chrétiens devenaient charnels et ils commençaient à ne plus s'aimer les uns les autres. C'est pour ça que je vous disais au début, t'es charnel, c'est pas méchant, tu ne perds pas le salut, mais quand vous allez voir la suite... Plus on devient charnel, et moins on pardonne, et moins on pardonne, et plus on est égoïste, etc., etc. Et vous comprenez bien qu'on finit, bien sûr, par perdre le salut. Voilà. Alors, bien sûr que Paul en arrive à ce stade, il dit, mais jugez-vous les uns les autres. Ça ne devrait même pas arriver dans une église spirituelle, il n'y a pas besoin de jugement. Dans une église spirituelle, je l'ai dit, on s'aime et on se pardonne. Mais ils étaient charnels, ils ne voulaient pas pardonner, et on ne pardonne pas parce qu'on est égoïste. Si vous n'arrivez pas à pardonner, ne dites pas, moi j'y arrive pas. Ce n'est pas vrai. Écoutez-moi bien, moi je l'ai entendu ça, ici, les gens sont rétrogrades hélas. Quand on ne pardonne pas, c'est qu'on ne veut pas pardonner. Parce que si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est qu'on peut pardonner. Et si on a besoin d'aide, est-ce qu'il nous aidera? C'est pas toujours facile, je le sais, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. J'ai vécu un ou deux conflits, je peux vous dire que ça a été très difficile. Parce que quand l'amertume commence à venir, je sais ce que c'est, je le sais, je bénis Dieu de l'avoir vécu, pour ne pas être trop dur envers les chrétiens. Mais mes frères et sœurs, un chrétien spirituel qui entretient une communion avec Dieu, il aime ses frères, il aime ses sœurs, même s'il ne saute pas au cou de tout le monde, il les aime, il les bénit, il pardonne, et il n'est pas égoïste. Le chrétien égoïste, lui, il veut, moi j'ai mes droits, on n'entend que ça aujourd'hui, c'est mon droit. Il y a des gens, ils arrivent de l'étranger, quels sont mes droits, de suite? Je ne dis pas ça pour les étrangers qui sont là, bien sûr. Parce que pour nous, il n'y a pas d'étrangers, on est des frères et sœurs. Mais vous n'avez pas remarqué? Les gens, c'est mon droit, qu'est-ce que j'ai droit? Moi, je préfère entendre, c'est quoi mon devoir? Moi, je sais que le seul témoignage que je garde de ma mère, c'est que tout le temps, elle disait, c'est mon devoir. C'est mon devoir, elle était toute petite comme ça, oui. Elle me disait, c'est mon devoir, il faut que je prie pour les frères, c'est mon devoir. Eh ouais. Mais je peux vous dire qu'on n'en serait pas là si dans la nation, tout le monde disait c'est quoi mon devoir dans ma famille, dans l'église, dans ma maison, dans ma société. Plutôt, vous avez vu les syndicats, l'œuvre diabolique qu'ils font dans les entreprises. Ouais. Et si vous êtes dans un syndicat, je vous conseille de prier. Donc, ils insistaient pour faire un procès, là, devant l'église, devant les païens. Comment l'église peut-elle être bénie dans cette forme-là? dont la solution, elle est spirituelle, vivre dans le pardon. Alors maintenant, juste pour terminer, mais il y a les chrétiens qui font des procès aux chrétiens, bon, on a vu, mais maintenant, que dire des incroyants qui font des procès aux chrétiens, qui intentent des procès aux chrétiens? Bon, vous êtes d'accord, un chrétien ne devrait pas intenter un procès à un autre chrétien. Mais est-ce que ça peut arriver qu'un païen intente un procès à un chrétien? Est-ce qu'un païen peut amener un chrétien devant le tribunal? Eh bien, regardez comment ça s'est passé. Regardez l'Église primitive. Comment ils y ont été? Ils ont été en prison. Vous avez vu dans quel état d'esprit ils ont été en prison? Dans un esprit de pardon, dans un esprit d'amour. Les disciples sont souvent allés en prison. Est-ce qu'ils n'ont pas été en prison souvent? Même au tribunal. Est-ce que Jésus a été au tribunal? Est-ce que Jésus a été devant un tribunal? Mais regardez, si vous... Alors écoutez, il y a un livre, c'est un bouquin qui a été fait par un protestant qui s'appelle Le procès de Jésus. C'est un gros bouquin, il est un peu fastidieux, mais il explique comment le procès de Jésus a été faux du début à la fin. Déjà, par exemple, il a été jugé de nuit et c'était interdit. Bon, on ne sait pas ça, mais les procès étaient interdits la nuit. C'est-à-dire qu'on ne pouvait être jugé que le jour. Mais là, vous avez vu, ils ont tout bâclé, ils ont voulu le crucifier de suite. Enfin, c'est terrible ce que Jésus a vécu. Est-ce que Jésus a dit, attends, j'ai un droit? La loi dit, est-ce qu'il connaissait la loi, Jésus? Ne me jugez pas la nuit, vous me jugerez demain. Est-ce qu'il aurait pu le faire? Mais c'est ce que feraient les gens aujourd'hui. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rien dit. Rien dit. Et quand on l'a crucifié, cloué, et tout ce qu'il a vécu au calvaire, la première parole qu'il a sortie, c'est quoi? Pardonne-leur. Et je vous assure que Jésus aurait pu tous les démonter, verbalement, tous. Et quand il s'est trouvé devant Pilate, devant Hérode, devant Caïphe, les autorités religieuses, etc., civiles, il n'a rien dit. Par contre, quand vous voyez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, ils ont défendu l'évangile et ils étaient toujours prêts à aller en prison. Toujours. Toujours, mes frères et sœurs. Alors c'est sûr, si un tribunal nous interdit de faire quelque chose qui est contraire à la Bible, si on m'empêche de prêcher l'évangile, par exemple, qu'est-ce que je dois faire? Comment? Voilà. C'est où ça? Madame Bourdet, vous devriez le savoir, je vous pardonne. Les sœurs, je les pardonne, les stagiaires, pas. Acte 5, 29. Mais lisez, mes frères. Vous savez, les temps vont devenir de plus en plus difficiles. Vous allez vous entendre, vous n'avez pas vu ces procès. Mais vous regardez la télé des fois? Vous regardez les informations? Vous regardez des chrétiens qui font des procès aux autres chrétiens? Des chrétiens qui font des procès à des mouvements? Mais mes frères et sœurs, c'est... Ben, c'est ça être charnel. Mais lorsque Pierre et Jean, etc., les apôtres, on leur a dit non, vous ne prêchez plus Jésus-Christ. Ils ont dit, acte 5, 29, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils ont été en prison, sans se plaindre, sans faire grève de la faim, sans faire des pancartes, non. Ils n'ont pas résisté, ils étaient prêts à mourir pour leur foi, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont morts à cause de leur foi. Quand on voit combien de protestants sont morts dans notre pays à cause de leur foi, et ça arrivait souvent. Jean-Baptiste, pourquoi il a été en prison, Jean-Baptiste? Pourquoi il a été en prison? Il avait tué quelqu'un? Qu'est-ce qu'il avait dit, Jean-Baptiste? Non mais... On va le lire, attendez, je l'ai marqué. Ouais, Matthieu 14. Regardez. Non mais c'est... Il faut quand même voir ces choses, mes frères et sœurs. Matthieu 14, là par contre si on entre là-dedans, on n'a pas fini. Matthieu 14, verset 3. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Regardez bien pourquoi ils l'ont mis en prison. Parce que Jean lui disait, il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, est-ce qu'on irait en prison pour ça? Non, aujourd'hui, on irait en prison parce qu'on a... Oui, parce qu'on a dit la vérité aussi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont commis des méfaits graves, on ne les emprisonne même pas. Et pour des broutilles, il y a des chrétiens dans le monde entier qui sont emprisonnés. On n'y pense pas, nous, en France, mais ça peut arriver. Ça risque d'arriver. Voilà. Et il voulait le faire mourir. Et il l'a fait mourir. Après, avec une femme complètement débile, je dis le mot parce que c'est la vérité. Sa fille, vous savez comment lui était complètement névrosé aussi. Vous avez vu comment Jean-Baptiste est mort? Vous avez lu l'histoire? Non, mais franchement. On pourrait se dire, mais Seigneur, mais attends, comment t'as fait? Pourquoi t'as permis que Jean-Baptiste, le plus grand homme, est-ce que c'est pas écrit que c'est pas le plus grand? Il est mort décapité à cause d'un politicien détraqué et d'une femme complètement débile. On lui a coupé la tête. Et puis, il y a des choses qui peuvent nous étonner. On aurait pu dire, Seigneur, tu ne vas pas permettre qu'un homme comme ça meure de cette façon. Et quand vous lisez, ils n'ont rien dit. Mais le problème, la vérité, c'est que le Saint-Esprit a béni. Le Saint-Esprit a continué à bénir. Au fait, 2000 ans ont passé. Vous préféreriez être à la place d'Hérode ou à la place de Jean-Baptiste? Sérieusement. À quelle place vous auriez le roi Hérode ou le pauvre prédicateur Jean-Baptiste, vous auriez préféré être qui? Eh ouais, voyez mes frères et sœurs. Alors bien sûr que le chrétien doit obéir à toutes les lois du gouvernement, sauf celles qui sont contraires à la Bible. Si on vous dit je veux que tu mentes, est-ce que vous allez mentir? Eh non, il faut obéir. Les chrétiens, ils obéissent à la loi. Moi j'ai vu un chrétien, je me rappelle, il conduisait sans permis. Et chantait à la chorale, c'était pas ici, chantait à la chorale. Et je lui dis, comment tu fais? Oh, mais c'est pas grave. J'ai dit, mais quand même, t'as rien à faire sur les strades. Vous vous rendez compte? Pour lui, c'est pas grave. Non, un chrétien, il obéit aux lois. Est-ce qu'un chrétien, il doit respecter la limitation de vitesse? Ou qu'est-ce qu'il doit dire? Oh, il n'y a pas les flics. Je peux. Moi, il y a une dame, dernièrement, qui est venue me voir, qui m'a dit, Monsieur Gou, vous savez, sur la rocade maintenant, il y a des voitures banalisées. Je vais vous donner le numéro des plaques d'immatriculation. Comme ça, quand vous les voyez, faites attention. Il dit, mais je n'en ai pas besoin. Moi, de savoir. Moi, je roule à 90 sur la rocade. Oui ou non? Vous voulez pas? Je vous offre le Coyote, Monsieur Gou. Je dis, non, ce n'est pas la peine. Hein. Je respecte la loi. Mais moi, quand j'entends certains chrétiens, ne nous étonnons pas que le Saint-Esprit nous résiste. Un chrétien, il obéit aux lois du gouvernement. Sauf, bien sûr, si on nous demande d'une loi, si c'est contraire à la Bible, non, bien sûr. Mais mes frères et sœurs, nous voulons la bénédiction, nous voulons que nos enfants soient sauvés, parce que le résultat, c'est toujours le même. Est-ce que nous voulons la gloire de Dieu dans l'Église? Vous voulez la gloire de Dieu? Nous voulons la bénédiction du Seigneur? Eh bien, soyons sérieux. Et quand il y a un problème entre... Eh bien, on pardonne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simple, vous voyez. Je ne sais pas si vous vous arrêtez sur ce chapitre. Moi, je l'avais fait il y a un moment. J'y le refais parce que je partage avec vous ces études. Mais mes frères et sœurs, devenons spirituels. Vous avez reçu des dons, c'est bien. Mais c'est pas ça le plus important. Les prophéties seront abolies, tout sera aboli. Mais l'amour restera, le pardon, ça restera, etc. Alléluia. Et nous, on veut, je ne sais pas, bien sûr, vous allez me dire, mais moi, Monsieur Gau, juger les anges, ça ne me préoccupe pas beaucoup. Ben, c'est bien. Mais je crois quand même que ça vaut la peine, hein, mes frères et sœurs, de tout faire pour glorifier le Seigneur. Vous êtes d'accord? Tout faire pour que Dieu bénisse. Vous voyez, il y a une sœur tout à l'heure avant la réunion qui nous a dit, Monsieur Gau, j'aimerais qu'on prie pour moi. C'est lié, ça? C'est notre sœur Laura. Laura. Qui nous a dit, j'aimerais qu'on prie. Mais voyez, quand Dieu bénit, quand Dieu approuve, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il bénit. Est-ce que vous croyez que si on obéit à ce qu'on a partagé ce soir, si quelqu'un a été repris, est-ce que vous croyez que Dieu peut bénir par déduction notre jeune sœur qui a besoin de la grâce de Dieu? Mais voilà, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. Alors on se recueille. Leur venez devant. Je vais demander à Monsieur de Dieu et à Jonathan de prier pour cette jeune sœur. Et on va prier avec elle, avec eux, d'accord? Vous êtes d'accord, mes frères et sœurs? Eh bien, prions avec nos frères. Que Dieu vous bénisse.